Silver Economy aujourd'hui regroupe les produits et les services à destination des seniors, qu'ils soient d'ailleurs en bonne santé, qu'ils soient fragiles ou qu'ils soient dépendants. En 2035, un tiers des Français auront plus de 60 ans, ça fait, si je ne m'abuse, plus de 20 millions. Ça veut donc dire que l'ensemble des activités liées à ces personnes âgées, qui vont être en nombre croissant, eh bien, elle va être également porteuse de croissance. Alors, madame, messieurs, est-ce que la Silver Economy et les services à la personne, mais d'abord, est-ce que la Silver Economy, c'est l'Eldorado du futur ?
C'est la silver economy, c'est pas non plus la golden economy. Donc restons lucides, effectivement il y a bon nombre d'opportunités, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de services qui restent encore à créer, il y a des marchés qui se développent, il y a beaucoup de publics à adresser, mais ça reste quand même un secteur sur lequel il convient de s'armer, de se préparer pour se développer.
Oui, pour abonder sur ce qu'a dit Monsieur Cormin, effectivement, c'est une filière qui présente beaucoup d'opportunités en termes de croissance, en termes d'emploi, mais c'est une filière qui aujourd'hui n'est pas mature, qui est très complexe en termes de modèle économique et de canaux de distribution. Donc c'est loin d'être l'Eldorado qu'on peut se figurer en ayant une image assez floue de la filière.
Alors, les services à la personne à travers les entreprises se sont développés à partir de 2005. On a tous en tête le nom de la loi Borloo, qui a donné un formidable coup d'accélérateur sur ces secteurs pour ce qui concerne les services à la personne. Moi, je vais rebondir aussi sur le thème Eldorado. J'ai oublié de le dire, mais je le signale. J'ai créé deux structures de services à la personne en 2008, puis j'ai rejoint la tête de réseau, accès aux services, mais... À l'époque, on parlait beaucoup d'Eldorado quand il y avait des articles dans les news magazines, etc., l'Eldorado des services à la personne. Si l'on entend par Eldorado un secteur où il est facile de travailler et il suffit de se baisser pour ramasser l'or à l'appel, je vous dis tout de suite, vous pouvez plier les bagages, on a fini la conférence et on n'a plus rien à se dire. Donc c'est un secteur où on bénéficie de deux formidables opportunités, enfin, entre autres, il y en a plusieurs. La première opportunité, on vient de le dire, nous sommes un secteur où on connaît à l'avance les besoins de nos clients en quantité. En 2060, on prévoit plus de 5,5 millions de Français ayant plus de 85 ans. Bon, voilà. Ça, c'est une réalité statistique. Elle est incontournable, c'est un marché. Et deuxième élément extrêmement important, et on en reparlera certainement, c'est qu'au-delà de la quantité, on connaît la qualité, la nature des besoins, la qualité de ces besoins-là. Donc on peut les anticiper, on peut se préparer à y répondre. Les Français veulent vivre longtemps à domicile dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que c'est aussi une nécessité pour les pouvoirs publics. Je dis bien pouvoirs publics, je ne parle pas de gouvernement.
On va y venir, monsieur. Donc c'est pas encore un Eldorado, mais il y a des gisements d'emploi. Monsieur Demain, qu'est-ce
que vous... Oui, en même temps, c'est un secteur qui est en plein développement, on le voit bien. Ce salon ne cesse de grandir. Il y a de plus en plus d'agences, il y a de plus en plus de grands réseaux qui commencent à se structurer. Je pense qu'on est au début de la structuration d'un vrai secteur, d'un vrai métier, qui est malgré tout le secteur des services à la personne. C'est-à-dire que la Silver en fait partie, mais le marché, c'est les services à la personne. Vous savez qu'il y a 21 ou 22 activités différentes dans le domaine des services à la personne. Si on parle des personnes... Silver Economy ou Senior Economy, on peut dire qu'il y a trois grandes parties de la vie des seniors que l'on couvre. Il y a tout va bien, j'ai envie de profiter, je suis à la retraite et j'aimerais qu'on s'occupe un peu mieux de moi, premier niveau. Deuxième niveau, ça commence à aller un tout petit peu moins bien, j'aimerais bien être dans un endroit où on s'occupe vraiment de moi, mais plus chez moi. Et puis troisième niveau, j'ai vraiment besoin qu'on s'occupe de moi dans un endroit dédié... avec des soins et avec des services un peu plus pointus. Donc on a vraiment cette évolution-là.
Donc on le voit, il y a des gisements, vous l'avez tous dit, mais attention à ne pas rêver d'opportunités qui n'existent pas forcément. En tout cas, elles n'existent pas toutes. Alors,
concernant les opportunités existent, c'est la facilité à laquelle il ne faut pas rêver.
Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Alors, concernant les services à la personne, on a rapidement dit ce qu'était la Silver Economy. Simplement, retour à la définition, comment vous définiriez les services à la personne? Mais très simplement, hein, vous avez défini assez simplement la Silver Economy. Les services à la personne, ça se définirait comment selon vous? On rappelle, ça a été dit que la loi Borloo, 2005, 21 secteurs, je crois, qui étaient à l'époque définis. Aujourd'hui, quelle définition vous donneriez du service à la personne?
Je veux dire trois mots. Je veux dire bien vivre à la maison, ou bien, on va dire, bien-être bien vivre et bien vieillir à domicile. Voilà. Ça, avec ça, on couvre la totalité des actions et des services et des prestations depuis la plus petite enfance jusqu'à l'extrême dépendance. L'objectif, c'est de mieux vivre à domicile, quel que soit son âge et quels que soient ses moyens pécuniaires ou physiques.
Est-ce que vous avez d'autres définitions ? Merci.
Oui, alors en ce qui nous concerne, Blunéa, nous, effectivement, on est plutôt sur le secteur senior. On n'est évidemment pas sur depuis la petite enfance, mais on va quand même retrouver ce bien-vivre, ce bien-vieillir et ce bien-être. Et il est important de savoir délivrer les services qui sont attendus par ces différents profils de population qui sont bien évidemment différents, parce que entre un jeune retraité de 65 ans qui vient de cesser son activité et puis quelqu'un de 95 ans qui a besoin de rentrer en établissement, la situation n'est pas la même. Mais on s'attache à avoir un panel de services adaptés aux différentes situations.
Donc là aussi, c'est pas uniforme. Hein. Les services à la personne sont vraiment multiformes. Pour le coup, une réaction, Monsieur Doman?
Oui, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Alain, mais c'est exactement ça. C'est finalement, dans notre métier, je parle du métier de Shiva cette fois-ci, on est vraiment dans une logique de « vous allez adorer rentrer chez vous ». C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'environnement est de plus en plus compliqué, plus difficile, l'environnement de travail, le stress, enfin, tout ce que tout le monde connaît très bien. Et finalement, on se rend compte que le marché, que les opportunités, puisqu'on n'est pas là pour parler d'opportunités, les opportunités, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement, en tant que citoyen, quand je rentre chez moi, je me sente mieux, que je sois jeune, que je sois vieux, que je sois quel que soit l'âge. Donc on peut avoir de la techno pour ça, on peut avoir des services, on peut avoir un certain nombre de moyens autour de ça, mais l'opportunité, c'est vraiment, on est tous à la recherche, quel que soit notre niveau, de trouver du bien-être dans son cocon et dans sa sphère familiale.
Hier soir ou avant-hier soir, monsieur le secrétaire d'État à l'industrie était présent dans le salon et je l'ai interviewé. Et il m'a dit trois choses importantes. Alors on va essayer de les détailler parce qu'il a listé les services à la personne et la silver economy. Et il a dit, et c'est la première chose sur laquelle je voudrais que vous réagissiez tous les quatre, il a dit que c'était d'abord une filière industrielle en tant que tel, c'est-à-dire qui génère du chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les services à la personne, c'est une vraie filière économique?
Oui, oui, absolument. Je crois que là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça correspond vraiment à une filière économique qui n'est pas nouvelle non plus. C'est-à-dire que les produits et les services à destination des seniors existent depuis plusieurs années. Mais maintenant, on a mis une identité, on a mis un cadre à cette filière, ce qui permet aux différents acteurs de pouvoir se positionner, de pouvoir se développer dans un cadre défini et avec de mettre à profit aussi des actions communes et de ne pas se débattre tout seul dans son coin. Donc c'est une vraie filière qui est en phase de croissance.
Vas-y, change, s'il te plaît. Juste, si on considère que c'est une filière économique, forcément, c'est que c'est la conjonction à un moment donné d'un marché, et ce marché, il est juste énorme. C'est la conjonction de besoins de clients, et ce besoin de clients, il est énorme, à condition, et on en reviendra certainement, que le niveau de service et le niveau de qualité soient un niveau de service et de qualité à la hauteur des attentes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il faut être extrêmement vigilant à ça. Le troisième composante d'un marché, d'un business, c'est quelque part, est-ce que la main-d'œuvre, les ressources humaines que j'ai pour agir sur ce marché, elle est de qualité, elle est formée, elle est motivée, elle est heureuse, entre guillemets, de faire ce métier. Et puis finalement, la dernière composante, c'est est-ce que tout ça est rentable. Et donc, si je peux répondre pour nous, la réponse est oui sur les quatre. Il y a bien un marché, il y a bien des clients qui ont des besoins qualitatifs et des attentes qualitatives, il y a bien des ressources humaines, et c'est peut-être même là où le bas est le plus difficile, où c'est le bas blesse, et puis il y a bien sûr une vraie rentabilité quand les affaires sont bien menées. C'est pour ça que nous, on essaie de les mener en réseau, parce qu'en réseau, on peut mutualiser un certain nombre de choses, et je pense qu'on y reviendra.
On y viendra très très largement, vous avez raison, comme on reviendra d'ailleurs sur le fait, et après je vous donne la parole madame, mais on reviendra sur le fait que la technologie aussi aide au développement de la filière économique. Il y a les ressources humaines d'un côté, la technologie de l'autre, et des fois d'ailleurs le mix entre la techno et les RH, ou les RH et la techno.
Alors pour revenir sur la notion de filière économique, c'est la filière économique, elle se caractérise par un chiffre d'affaires Voilà, ça se mesure. Elle se caractérise aussi, une filière économique, par les emplois qu'elle crée. Or, on sait que les services à la personne sont un gisement d'emplois absolument extraordinaire. Alors, suivant les estimations, on parle de 300, 400, 500 000 emplois dans les 15, 20 années.
Alors,
on n'est pas à 100 000 près, mais c'est une réalité.
Je vous interromps 20 secondes là-dessus, parce que moi, j'avais un chiffre qui correspond à 45 000 emplois créés en 3 ans, entre 2013 et 2016.
J'ai pas les dernières statistiques, mais aujourd'hui, en tout cas, on le dit par rapport aux besoins. Aujourd'hui, notre problématique, d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise, c'est pas tellement de trouver des clients, hein, c'est de trouver des employés, des salariés à accueillir, à former, à fidéliser. Le dernier point que je voulais rajouter sur la filière, c'est les chiffres, les emplois et la perspective d'avenir. C'est ce qui prouve qu'il y a une filière. Sinon, on est dans une niche. On est dans une niche économique. Alors, c'est, par exemple, ça n'a rien à voir avec les vendeurs de vapoteurs. Là, je ne sais pas comment on dit. Là. Bon, ça, c'est une niche à un moment donné. Hein, cigarette électronique. Voilà. Ce qui prouve que je ne suis pas fumeur ou plus. Voilà. Ça, c'est une niche. Or, les services à la personne, c'est le contraire d'une niche. C'est une vraie filière économique qui a un présent, qui a un passé, un présent qui se structure et surtout qui a un avenir à saisir.
Merci.
Alors nous, chez Silver Valley, on a tendance à considérer les services à la personne comme un marché ou un secteur d'activité, et pas forcément comme une filière. Parce qu'on considère que la Silver Economy est une filière, donc il y a une filière parce qu'elle rassemble différents acteurs dans la chaîne de valeur. Et qu'au sein de la filière Silver Economy, il y a plein de secteurs d'activité, dont les services à la personne. Mais bon, ça c'est un petit peu un jeu sur les mots, mais c'est comme ça qu'on le considère. Mais ce qui est un fait, c'est qu'il y a des vrais besoins. En face, il y a des acteurs qui sont organisés en fédération, des acteurs publics, des acteurs privés, enfin plutôt associatifs ou privés. Et donc, il y a un vrai marché avec des besoins, des opportunités, et un marché qui ne peut que croître parce que démographiquement, on sait qu'il y a les besoins qui vont être croissants.
Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt rassurés. Maintenant, quand vous le dites, d'ailleurs, vous le dites tous les quatre, quand on parle de service à la personne, on parle de structuration, d'organisation, mais également de cadre réglementaire, de cadre légal. C'est important pour les gens qui sont dans cette salle et ceux qui nous écouteront plus tard de rappeler qu'on ne se lance pas dans ce secteur d'activité en ayant une méconnaissance de la réglementation et de la législation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre réglementaire avec lequel on ne rigole pas beaucoup.
Oui. Comme dans tous les métiers, il y a un cadre réglementaire solide. Et heureusement, parce qu'il protège aussi bien le client final, qu'il protège l'employé, qu'il protège les sociétés, et peut-être les sociétés que vous montrez. On peut se dire un cadre fiscal et un cadre social et un cadre réglementaire contraignant. Oui, mais ça n'empêche que le secteur est florissant et continue à se développer. Je pense que ce que toutes les fédérations demandent est... La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à être entendu. C'est pas trop, on se plaint pas trop de ce cadre fiscal, social. Ce qu'on a besoin, c'est d'une stabilité de ces cadres. C'est-à-dire que pour un chef d'entreprise, construire son business plan sur 2 ans ou 3 ans, ce qui est obligatoire quand on veut monter ou quand on veut développer une entreprise, il faut qu'on ait un peu de visibilité. Et le plus difficile, c'est en train de changer. Ce qui a été très difficile dans nos métiers, ça a été les changements de cap successifs des différents intervenants sur ce secteur.
Alors, simplement, rappeler le cadre dans lequel on évolue, vous savez, il y a 21 métiers qui couvrent à la fois ce qu'on appelle les métiers de la vie quotidienne, les conforts, hein, ménage, jardinage, repassage, bricolage, etc. Vous avez toute la partie qui est liée à la garde d'enfants, petite enfance, moins de 3 ans et enfance de plus de 3 ans, et puis les prestations qui s'adressent aux personnes dites fragiles, public plus fragile, notamment les personnes, donc personnes âgées et personnes handicapées. Le cadre dans lequel on évolue doit être un cadre réglementé, puisqu'il y a des aides directes ou indirectes qui sont portées sur les entreprises ou sur les bénéficiaires. S'agissant de notre argent, collectivement parlant, eh bien, il est normal qu'il y ait un encadrement, une vérification qui permette de vérifier, de contrôler que tout se passe suivant des normes de qualité et de service qui doivent toujours aller plus en avant. Hein, donc ça, c'est une absolue nécessité. Mais évidemment, je rejoins Charles sur l'absolue nécessité, l'impérieuse nécessité de la stabilité réglementaire, fiscale et sociale. Et c'est vrai que les pouvoirs publics comprennent, face aux enjeux qui sont posés sur la table, que les chefs d'entreprise, et au-delà des chefs d'entreprise, là on parle des chefs d'entreprise, mais le monde associatif également, a besoin aussi de stabilité, parce que c'est une nécessité pour les citoyens français que d'avoir des services à domicile, et c'est une nécessité pour les entreprises qui portent ces services à domicile de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles de pérennité.
Vous vouliez réagir, Monsieur Corbin.
Oui, absolument, parce qu'on parle de service à la personne et de silver economy, mais toute la silver economy n'est pas que service à la personne, et le service à la personne n'est pas uniquement dans la silver economy. Donc il faut également avoir connaissance des cadres existants, savoir se positionner, surtout lorsqu'on parle d'innovation et d'entreprise, savoir un petit peu comment on va s'organiser par rapport à ces réglementations. Pour exemple, chez Blue Linea, nous avons une structure qui est une entité détenue à 100% par Blue Linea, qui s'appelle Equinox, et maintenant Blue Linea Service, qui est service à la personne, qui rend le service à la personne au travers de la téléassistance. Mais nous avons d'autres activités au sein de Blue Linea qui sont également des services qui peuvent être délivrés ou pas par des objets connectés, mais qui ne rentrent pas dans ce cadre des services à la personne. Donc il faut bien avoir notion de ces différentes activités et savoir comment se positionner selon le cadre existant.
Vous avez parlé de 21 activités, on va peut-être pas les lister ici, mais est-ce que ce cadre-là, ces activités, elles ont tendance à augmenter, ou est-ce qu'il y aura un nouveau cadre légal qui les fera augmenter ou pas, d'après vous ? Ou est-ce qu'on a fait le tour aujourd'hui de ces activités ?
Que l'on ait fait le tour, certainement pas. Leur évolution est probable. Je ne l'annonce pas, mais je pense qu'elle sera probable. En tout cas, dans les services aujourd'hui existants, il y a des prestations qui apparaissent cruciales et qui sont vraiment liées à la silver economy. Je veux parler, par exemple, de la sécurisation du domicile des personnes âgées. Il est évident que, puisqu'il faut rester à domicile le plus longtemps, on sait tous ou presque que le risque de mortalité, enfin la mortalité, la cause de mortalité la plus importante chez les personnes âgées, c'est la chute. Et c'est la chute à domicile. Donc si l'on veut bien vieillir dans de bonnes conditions, il faut aussi sécuriser le domicile. Et ce n'est pas forcément des travaux lourds, ce sont des choses qui peuvent être très simples. Ça passe par un audit, ça passe par un apport de services très simples et qui vont permettre à la personne âgée de continuer à évoluer chez elle en toute sécurité. Mais voilà des évolutions des services à la personne qui prennent en compte l'évolution des besoins avec le vieillissement de la personne. Et donc ça ouvre là aussi des perspectives différentes. Les technologies qui y sont associées, elles viennent renforcer la réponse à ces besoins.
Donc pour le coup, on est là aussi plutôt rassuré, parce que ça veut dire que le cadre légal et réglementaire, il évolue en fonction de l'évolution de la société, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on ne reste pas bloqué sur ce qui s'était passé en 2005, mais qu'on se projette. Je voudrais juste revenir sur un point qui n'a pas été traité, mais qui rentre dans le cadre légal et réglementaire, et les porteurs de projets peut-être dans cette salle y seront attentifs, c'est l'aspect fiscal des choses. Je sais que ça peut être quelquefois un point d'achoppement, on va pas faire un débat fiscal ici, mais c'est quand même pas si simple que ça de bien comprendre la fiscalité liée à ce secteur d'activité. Pour les services à la personne, c'est particulier, cette fiscalité.
Oui, c'est particulier, comme dans tous les secteurs, il y a des règles, il faut les suivre, elles peuvent. Ce qu'on espère, c'est qu'elles changent le moins possible, je reviens là-dessus. Pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre, et j'espère qu'il y en a dans la salle, et qu'on leur donne envie, mais pour ceux qui ont envie d'entreprendre, je pense que c'est là où il ne faut pas hésiter à entreprendre dans un réseau. Parce que le réseau vous apportera le savoir-faire de quelques années d'expérience, on aura vécu les différentes évolutions, le cadre légal, le cadre fiscal, le cadre social, le cadre technique. Le réseau vous apporte toutes ces compétences. Les fédérations professionnelles peuvent aussi vous apporter un certain nombre d'éclairage, d'études, etc. J'imagine que madame peut aussi apporter beaucoup d'informations aux gens qui veulent créer. Mais je pense qu'aujourd'hui, créer sa structure de service à la personne de façon isolée, à partir d'une bonne idée, du genre Ah oui, ça m'est arrivé avec mon grand-père, on en parlait tout à l'heure, ou avec ma grand-mère. Et puis j'ai envie de monter ma boîte parce que finalement, je me suis senti bien seul et je pense que je peux aider. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un réseau et à monter son entreprise en s'appuyant sur un réseau. D'abord, on va plus vite, on prend beaucoup moins de risques, on est accompagné, on est formé, et puis on est entouré par des collègues qui vivent au quotidien la même chose.
Et je vais faire le lien avec ce que vous dites pour enchaîner sur un autre thème, parce que j'ai dit le ministre, enfin le secrétaire d'État à l'industrie, a dit trois choses. Il a dit que c'était une filière économiquement structurée, vous avez répondu à cette question. Il a dit autre chose, le ministre, il dit toujours des choses intéressantes, mais là il en a dit au moins trois. La deuxième, c'est que aujourd'hui le service à la personne, ce n'est plus des petits boulots. Ce n'est plus des petits boulots, ni d'ailleurs pour les chefs d'entreprise, ni pour les intervenants. Alors on va d'abord se mettre du point de vue de l'entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, se lancer dans les services à la personne, et entre autres dans la silver economy, donc pour des personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou pas dépendantes, ça requiert des compétences particulières en termes de chef d'entreprise, de créateur, de porteur de projet?
Ah ben, oui, bien sûr. Si on essaie de raisonner au niveau de la fédération de la franchise, cette fois-ci, qui sont les porteurs de projets les plus importants, sont, comme par hasard, des gens de la senior economy. Ce sont des gens qui ont 45 et plus, qui sont la majorité des créateurs d'entreprises aujourd'hui dans le domaine de la franchise et dans le domaine des services. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui demande des compétences commerciales, des compétences de management, des compétences financières, des compétences juridiques. Je pense que essentiellement des compétences humaines et malgré tout, l'âge fait qu'on apprend un certain nombre de choses pendant son parcours. C'est souvent à 45, 50 qu'on se pose les questions de choix de vie et de choix professionnels et de choix professionnels et choix personnels. Et donc c'est à ce moment-là qu'on croise les porteurs de projets qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai entendu parler des services à la personne, c'est un métier qui m'intéresse. Je sens que j'ai besoin de donner, j'ai besoin de... Mais j'ai aussi besoin de monter ma boîte et de gagner ma vie.
C'est un peu les deux, c'est le mix des deux.
C'est le mix des deux. Donc pour répondre à votre question, le profil, c'est plutôt des gens qui ont envie, bien sûr, d'entreprendre, qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre tout seul dans leur coin et de recréer de A à Z une entreprise qui est toujours compliquée, et qui viennent nous voir pour s'appuyer sur de l'existant, pour pouvoir développer leurs propres entreprises.
Oui, je pense que ce qui est important aussi, alors moi je suis pas une spécialiste des services à la personne, mais je pense que quand on entreprend dans les services à la personne, ce qui est important, c'est aussi d'être ouvert à l'évolution du secteur. Comme disait monsieur tout à l'heure, il y a de plus en plus de technologies qui vont être associées aux services à la personne. Les modèles économiques peuvent évoluer. Donc c'est important d'avoir l'esprit ouvert, de regarder ce qui se passe autour de soi, de voir comment les technologies évoluent, est-ce qu'elles sont acceptées par les personnes âgées. Ou par les autres clients d'ailleurs. Et c'est un état d'esprit qui me semble assez important pour entreprendre dans la filière.
Absolument, mais je vais vous laisser réagir. Mais quand on a préparé cette émission, cette table ronde, on s'est dit attention au piège de ne pas créer sa structure en partant de son petit bout de lorgnette en disant moi, mon grand-père ou mon père, il a Alzheimer, alors je vais me lancer. Il faut éviter ça, hein, mais c'est ce que vous disiez, il faut être plus large dans son esprit.
Oui, absolument. C'est vrai que nous, Blue Linea, on rencontre souvent des nouvelles structures ou des personnes porteurs de projets. On a remis, par exemple, hier le prix de la Silver Academy, dans lequel on s'est engagé à accompagner un jeune start-upper qui a un projet qui nous semble des plus pertinents. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est effectivement mon grand-père a tel besoin, ou j'ai vu que pour ma maman, ça serait bien d'avoir ça. Je pense que c'est important d'avoir cette vision et que ce soit l'élément déclencheur, mais il ne faut pas se restreindre et n'avoir que ça comme champ de vision. Et il y a des structures, j'ai parlé de nous dans la Silver Academy, mais Silver Valley, par exemple, est une structure et un cluster qui se fait fort d'accompagner l'ensemble des structures qui souhaitent se lancer dans cette filière et qui permettront d'élargir le champ de vision, d'avoir une meilleure connaissance de l'état de l'art actuel et également de pouvoir confronter ses vues et ses innovations avec le reste du marché.
Il faut aller chercher de l'information. Il faut vraiment vérifier ce qu'on veut faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire avant de se lancer. Vous êtes d'accord ?
Oui, et je voudrais rebondir sur les propos du secrétaire d'État qui disait à juste titre, mais c'est un message que l'on porte depuis longtemps, les services, les métiers des services à la personne, je dis bien les métiers, c'est pas un job. Hein. Un job, c'est un truc d'appoint, passager, temporaire. Un métier, c'est une formation, c'est une expertise, ce sont des compétences qui s'apprennent, qui se développent, c'est une carrière qui se gère et qui a des perspectives. Donc ça, il faut absolument arrêter de parler des jobs, des petits métiers, mais parler des vrais métiers que portent les services à la personne.
C'est le deuxième volet, on va en parler, mais sur le profil du chef d'entreprise.
Alors, sur le profil du chef d'entreprise, bien, nous, on a fait une petite étude à la FEDESA. Bon, on s'aperçoit que les deux critères premiers qui portent un créateur d'entreprise, c'est un, être indépendant. Hein, à un moment donné de sa vie, et je l'ai vécu aussi, on a envie de se confronter un peu à soi-même, de s'épanouir, d'avoir la possibilité, j'allais dire presque, d'exprimer son génie personnel, de donner sa couleur à quelque chose de différent. Et pourquoi les services à la personne ? Ben parce que, c'est le deuxième critère important, c'est de vouloir jouer un rôle d'utilité sociale. Et ça, c'est très très vrai. Pour l'ensemble des acteurs de la filière, on est des tisseurs de liens, on crée des liens, on favorise ces liens-là, des liens entre nous, entrepreneurs, et les salariés, entre les salariés et les bénéficiaires et les clients. Et c'est bien souvent un élément de restructuration pour bon nombre de nos salariés que de revenir dans le marché de l'emploi par l'intermédiaire de ces métiers et de pouvoir être formé et de s'ouvrir des perspectives nouvelles.
Vous vouliez réagir, madame.
Oui, je voulais rajouter. Nous, chez Silver Valley, on avait fait une étude sur le financement des jeunes entreprises dans la Silver Economy, donc pas uniquement les SAP, mais sur les jeunes entreprises dans la Silver Economy. C'est une étude qu'on a fait en 2014, de mémoire. Et on s'était aperçu que l'âge moyen de création d'une entreprise dans la filière, c'était 45-55 ans, parce que c'était des personnes qui avaient été confrontées au vieillissement de ses parents, de leurs parents, qui avaient constaté des manquements, des besoins, et donc qui s'étaient décidés à se lancer. Et là, encore une fois, pour ajouter sur ce que disait Monsieur Corbin, c'est important de se dire que notre cas particulier, c'est pas forcément la réalité, et donc c'est important de garder l'esprit ouvert et surtout d'aller analyser les usages, les besoins et l'acceptabilité des solutions et des services qu'on développe.
L'âge moyen des créateurs d'entreprise, c'est effectivement ça, c'est 45-50 ans. Or, c'est amusant de constater que c'est aussi l'âge à partir duquel on est considéré comme senior dans le monde de l'entreprise. Donc il n'y a probablement pas de hasard. Et sur la nécessité de se former, je voudrais prendre un exemple, c'est celui du ménage. On croit que c'est facile de faire le ménage, parce qu'on a l'habitude de faire le ménage chez soi, enfin plus ou moins. Le ménage, faire chez soi le ménage, c'est une tradition, une transmission culturelle qui a été faite par maman. Le faire chez les autres, c'est un métier. Exigences qui sont portées par le client, elles sont bien au-delà de celles qu'on a pour soi-même.
Et encore plus quand il faut organiser ce ménage chez les autres, parce que c'est pas nous-mêmes qui le faisons, mais on le confie à d'autres. On va y venir, c'est vraiment la partie RH, mais je crois que vous aviez une réaction sur ce qui vient d'être dit, non ? Oui ?
Non, mais je partage tout à fait ce point de vue. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous sommes sur des métiers où on gère de l'humain. Donc la qualité du service, la qualité du produit délivré est essentielle parce qu'on parle pas uniquement mais aussi de personnes fragiles ou de personnes en situation de fragilité. Oui. Donc on a un devoir en tant que professionnel de délivrer un service à la hauteur des attentes du client et c'est aussi un rôle civique. Je sais que moi je suis dans ce secteur depuis quelques années maintenant, j'y suis arrivé un petit peu par hasard, ça s'appelait pas encore la Silver Economy. Et en gros, j'avais le choix entre rentrer, j'avais une formation de technicien à la base, j'avais le choix entre rentrer chez un gros fabricant d'armes français que je ne citerai pas, ou dans une société de 3 personnes qui faisait du matériel de téléassistance. Mon choix était vite fait, parce qu'il y a aussi une motivation personnelle de se rendre utile dans cette société, et je crois que c'est quelque chose qui anime l'ensemble des personnes que l'on croise dans cette filière et qu'il est important de souligner.
C'est bien, vous avez eu raison de le dire, et ça précise encore un peu mieux le profil du créateur d'entreprise avec tout ce qui vient d'être dit. Alors maintenant, on va partir sur l'autre volet qui est très très important, c'est celle des ressources humaines. Quand on crée un service, quand on crée une société de service à la personne, et si elle est en plus destinée aux personnes âgées et en plus dépendantes, il faut avoir en tête qu'à un moment donné, on va pas pouvoir le faire soi-même. Le ménage dont parlait monsieur, c'est pas le chef d'entreprise qui va le faire, il va le confier à un salarié, à deux salariés. Et ce qu'on sait depuis un certain temps, c'est que très vite, la boîte peut grossir. On peut très vite avoir beaucoup de gens à gérer parce que justement, il y a beaucoup de clients. C'est ce que vous disiez, on manque pas beaucoup de clients, mais on peut manquer de main-d'œuvre. Alors, cette filière, elle doit se professionnaliser. C'est-à-dire que ceux qui interviennent, vos salariés, doivent impérativement être mieux formés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
La première personne à bien former, c'est le créateur d'entreprise. Par exemple, chez nous, quand on ouvre une nouvelle agence, le créateur d'entreprise passe avec nous entre 4 et 5 semaines de formation intensive. D'abord en école, dans notre école, puis ensuite dans nos agences, puis ensuite il est accompagné pendant 6 mois par un responsable régional de développement dont le métier c'est de s'assurer que le chef d'entreprise a bien compris l'ensemble des processus, les applique correctement, sait recruter, sait gérer, sait former, sait accompagner, sait s'assurer de la qualité, a la bonne relation client, sait gérer les conflits, etc. etc. Donc tout ça fait partie du savoir-faire finalement que le créateur d'entreprise vient acheter à un réseau de franchise comme nous, puisque tout ce savoir-faire est entièrement écrit, décomposé, expliqué et fait partie de la formation.
Et ce que vous dites là-dessus, monsieur, c'est que le management, c'est pas inné. Le management, ça s'apprend.
Oui, alors on essaye de trouver des gens qui ont déjà une expérience de management, ce qui est à 45, 50 ans, souvent le cas, des gens qui ont déjà géré leurs équipes, des petites ou des très grandes. On a des gens qui ont géré de très, très grosses équipes qui nous rejoignent et qui, au contraire, demandent à gérer des équipes plus petites. Juste pour répondre à votre question et peut-être laisser mes collègues, une agence Shiva, par exemple, c'est très rapidement 50, 60, 70 intervenants à gérer, avec les absences, avec les maladies, avec le client n'est pas là, j'ai pas la clé, etc. C'est là où la techno, si on a 5 minutes tout à l'heure, peut aussi nous être utile, parce que la technologie, les innovations vont nous permettre de contrecarrer quelques difficultés de management de temps en temps, mais on en parlera après.
Bien sûr, non, mais bien sûr.
En premier, former le manager.
Former le manager. Alors, au-delà de la formation du manager, qui est indispensable, sur les équipes elles-mêmes, est-ce qu'il y a un effort de professionnalisation des intervenants ?
Cet effort-là, il est permanent. Le travail du chef d'entreprise dans les services à la personne, c'est au-delà de la démarche commerciale, évidente, c'est le travail de recrutement permanent. Recrutement permanent. Alors, recrutement permanent, c'est pas simplement qu'embaucher. Embaucher, c'est le début d'un process. Hein. Embaucher, c'est accueillir, c'est intégrer, c'est former, c'est accompagner, c'est donner de la perspective. Nos métiers sont des métiers qui sont des métiers difficiles. Ils sont difficiles à plus d'un titre. Ils sont d'abord difficiles physiquement. Bon, ça, j'ai pas besoin de m'apesantir sur le sujet. Tout le monde l'a plus ou moins vécu à ses dépens. Mais c'est aussi un métier qui est difficile psychologiquement. Il est difficile, y compris dans les métiers de ménage. Alors, pour les assistantes de vie, il y a des métiers qui en cumulent la difficulté physique et la difficulté psychologique. Hein, la relation avec les personnes âgées, qui sont pas toujours des personnes âgées adorables. Il y en a parfois qui sont détestables. Et ça se comprend. Il y a du stress, il y a des maladies, etc. Mais également pour les assistantes ménagères. Parce qu'une assistante ménagère, elle n'est pas dans une entreprise où on se retrouve le matin autour d'une machine à café. Elle arrive avec son sac de vie qui est plein de pierres difficiles à porter. Elle ne les partage pas autour de la machine à café avec ses collègues. Elle va d'une mission à une autre. Elle travaille toute seule. Et donc, le management, il doit être là un management de proximité, mais pas un management de proximité sur le papier. Un management humain vraiment de proximité. Alors, tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça se développe à partir de ses propres capacités humaines en tant que chef d'entreprise. Mais s'il y avait un message que je voudrais vous faire passer, à vous qui êtes, j'espère, de futurs chefs d'entreprise dans les services à la personne ou pas d'ailleurs, c'est si vous voulez bien vous occuper de vos clients, occupez-vous d'abord bien de vos salariés. La clé de la réussite, elle est là. Occupez-vous d'abord bien de vos salariés si vous voulez être un chef d'entrepreneur qui fasse de ses clients des clients satisfaits.
Madame Sric.
Moi, je souhaitais ajouter que, en fonction des différentes entreprises de services à la personne, les exigences en termes de formation ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête, même en tant que client hein, des entreprises de services à la personne. Et ensuite, j'aimerais abonder sur ce que disait mon voisin sur la formation et par rapport au petit boulot. Trop souvent, on dévalorise le métier du service à la personne et la personne elle-même qui intervient au domicile. Et les former... tout au long de leur vie professionnelle, c'est aussi un moyen de les engager davantage et de valoriser leur travail, de les faire monter en compétences pour pouvoir peut-être s'adresser à d'autres publics pour s'occuper d'enfants en bas âge, c'est pas la même chose que s'occuper d'une personne âgée dépendante, et on a besoin d'être formé pour l'un et pour l'autre, et on peut très bien avoir des évolutions au sein des entreprises de services à la personne, de personnes qui changent un petit peu de métier en fonction de ces services.
Oui, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient de se dire, parce que vous avez tous lu dernièrement l'ubérisation des services à la personne. Grosse bêtise. Pourquoi ? Mais parce que ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà c'est un métier où on vit seul, on est chez soi, enfin on est chez les clients, on voit rarement ses collègues, on voit rarement son bureau, on voit jamais son patron ou rarement. Si en plus, le seul lien qu'on a, c'est un mot de passe sur Internet, c'est juste pas possible. Donc il faut pas avoir peur de l'ubérisation des métiers des services à la personne. Je pense qu'au contraire, ce sont des magnifiques outils à intégrer dans une logique humaine, c'est-à-dire vraiment avoir cette logique humaine de proximité, de confiance, de relation avec ses équipes, et utiliser tous les apports de, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais ubérisation, ça parle à tout le monde, pour mieux manager, pour donner plus de confort aux clients, à l'employé et à l'entreprise, et augmenter la productivité de l'entreprise.
Oui, cet aspect de la formation et des ressources humaines est primordial lorsqu'on parle de service, parce que c'est ce qui valorise et c'est ce qu'attend l'utilisateur, le client ou le bénéficiaire. En ce qui concerne Blue Inea, nous, notre métier dans le service à la personne, c'est la téléassistance. Donc c'est un métier qui va se délivrer à distance. On n'est pas comme vous en contact physique et direct au domicile, mais on est très loin. Enfin, qu'on soit à 1 km ou à 1000 km, c'est pareil. Et la formation de ce que nous, on appelle les écoutants est primordiale, parce qu'ils vont se retrouver dans des situations qui sont très diverses, dans des situations parfois à gérer du stress, à gérer une personne en détresse. Il faut savoir prendre les bonnes décisions, il faut savoir écouter, analyser la situation. Il faut également savoir répondre à des demandes du quotidien qui pourraient nous paraître anecdotiques, mais qui pour l'usager sont juste majeures. Une personne qui vous appelle un soir à 19h30 en disant « ça va pas du tout, mon chat n'est pas rentré », ça pourrait nous faire sourire, mais pour cette personne qui vous appelle à ce moment-là, c'est juste la préoccupation majeure de sa vie. Il faut également savoir répondre à ça. Donc la formation continue et le partage d'expérience sont des choses très importantes à prendre en compte dans nos métiers.
Donc vous qui voulez entreprendre, vous avez vu un profil de créateur qu'il ne faut pas prendre à la légère, et puis évidemment, faites attention à vos ressources humaines, et on reprend le mot qui a été dit, si vous voulez avoir de bons clients, il faut d'abord avoir de bons collaborateurs et prêter attention à vos collaborateurs. Il faudrait qu'on aborde un autre thème maintenant, qui est le thème, alors je ne sais pas si ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais du marketing. Dit autrement, le service à la personne à destination des personnes âgées, est-ce qu'on le connaît bien? Est-ce qu'il est clairement identifié? Et alors encore plus, de manière encore plus pragmatique et plus pratico-pratique, si moi demain je veux faire appel à une société de service à la personne pour ma grand-mère ou mon grand-père, j'appelle qui? J'appelle comment? Et comment je sais que c'est un bon service?
Alors c'est une vaste question. D'abord, il y a une réponse à plusieurs niveaux, et celles que je vais apporter ne seront pas exhaustives, évidemment. D'abord, il y a un travail qui est fait par les fédérations patronales d'études, de prospectives, de mesures des besoins, de leur évolution dans le temps. Ça, c'est un de nos boulots, que de donner de l'information pour une meilleure appréhension de l'évolution des besoins des clients. Et incontestablement, dans le cadre de la filière Silver Economy, toute la partie technologique, toute la partie domicile, toute la partie gérontologique au sens large du thème en fait partie, mais l'évolution d'un certain nombre de pathologies grandissantes telles que Alzheimer, Parkinson également, nécessite des prises en compte complètement différentes. Et ça, c'est un travail dans lequel l'ensemble des fédérations patronales sont évidemment engagées. Par contre, au niveau des entrepreneurs, je dirais que le premier élément statistique à partir duquel ils travaillent, c'est évidemment l'ensemble de ses clients. Hein ? Et être à l'écoute de ses clients, c'est non seulement être à l'écoute des besoins qu'il exprime là, maintenant, à l'instant présent, mais c'est être capable d'anticiper ses besoins par la relation humaine que l'on crée avec lui, d'anticiper ses besoins dans le futur. N'oubliez pas que nous avons une chance absolument extraordinaire dans nos métiers. C'est que nous sommes, je n'en connais pas d'autres, mais vous allez peut-être m'en citer, nous sommes le seul métier, à ma connaissance, qui nous permet de rentrer chez les gens, dans leur intimité, à leur domicile,
À part la police et la gendarmerie, j'en vois pas d'autres.
Oui, mais ils le font pas plusieurs fois par semaine, ou alors c'est très mauvais signe. Tandis que nous, on le fait plusieurs fois par semaine. Hein. On le fait pour garder des enfants, on le fait pour faire le ménage, on le fait pour faire le jardin, on le fait pour garder au même domicile une personne âgée, etc. Donc vous voyez, on a un contact direct qui nous permet de mesurer en permanence l'évolution des besoins et individuellement et ensuite collectivement à les prendre en compte et à aider les pouvoirs publics, les technologies à évoluer.
Mais vous avez, alors c'est effectivement sur les besoins, vous avez bien répondu, mais vous n'avez pas répondu en totalité à ma question qui est comment moi je sais, moi futur client, pas encore client, comment je vais savoir que je peux faire appel à telle ou telle société plutôt que telle ou telle société. Dit autrement, qu'est-ce qui vous différencie? Y a-t-il des labels? Y a-t-il des réseaux reconnus? Par qui? Comment? Est-ce que ça existe?
Alors, on peut dire qu'il y a trois grandes familles de réseaux. Il y a des réseaux multispécialistes, typiquement ce que Alain et Accès au fond. Des réseaux très spécialisés dans un domaine d'activité. Typiquement, Shiva est un réseau très spécialisé dans le domaine de l'entretien de la maison et de la sphère privée. Ça, c'est la première différenciation. La deuxième chose ensuite, donc, c'est est-ce que j'ai envie de faire appel à quelqu'un de très spécialisé qui va faire un métier à fond, qui connaît que ce métier et qui va le faire le mieux possible avec des critères qualité très puissants, ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui prenne en charge 100% d'une demande familiale. Ça, c'est première chose. Ensuite, il y a vraiment une autre segmentation qu'on peut avoir quand on cherche un prestataire. C'est est-ce que je veux faire appel à un prestataire, est-ce que je veux faire appel à un mandataire. Et on y reviendra tout à l'heure. Selon le type de besoin, on peut avoir intérêt à plutôt faire appel à un prestataire ou à un mandataire. En gros, en tant que mandataire, la personne que vous allez employer est votre employé, alors qu'en tant que prestataire, elle est l'employé de la société à qui vous faites appel. Ce qui change fondamentalement la relation humaine entre la personne, le client et l'employé, selon que ce soit son employé ou l'employé d'une société qu'elle emploie. Donc voilà les deux gros. La troisième chose, je pense, qui est essentielle et qui fait la réussite aujourd'hui des entreprises de services à la personne qui se développent, c'est la proximité. C'est-à-dire, j'ai besoin de pouvoir rencontrer la personne, de pouvoir, je parlais tout à l'heure de l'ubérisation de cette économie-là. Je pense que ce qu'on a vraiment besoin quand on confie les clés de chez soi, quand on confie ce qu'on a de plus intime quelque part, c'est la capacité d'aller rencontrer un patron d'agence, lui remettre les clés et avoir cette relation de proximité et de confiance.
Merci. Moi, je souhaitais juste réagir par rapport à votre question. Quand vous dites vers quel acteur me tourner, quel prestataire choisir, etc., c'est une question qui est plus globale à la silver economy et pas uniquement liée au service à la personne. C'est-à-dire que demain, vous avez une grand-mère qui se casse la figure et vous avez besoin d'adapter en urgence son logement, on ne sait pas vers qui se tourner. Et ça met vraiment le doigt sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la filière n'est pas mature, notamment en termes de canaux de distribution. C'est une filière qui est très floue du point de vue du consommateur ou de l'utilisateur. Et ça, c'est global sur tous les secteurs d'activité.
Et puis, il y a les certifications qualité. Il faut dire aussi que l'ensemble de la filière professionnelle a depuis quelques années mis en place des certifications qualité. Il y en a trois. Il y en a une qui s'appelle Calicert, l'autre qui s'appelle Calisap, et puis la troisième, c'est Norme NF. Peu importe celle que vous choisirez demain. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette certification qualité par un acteur indépendant qui certifie que l'ensemble de vos process commerciaux, humains, techniques et de gestion correspondent à des niveaux de qualité élevés mesurés en tant que tels. Voilà. Ça, c'est... Alors, au début, se distinguaient ceux qui avaient la certification qualité. Aujourd'hui, se distinguent ceux qui ne l'ont pas. Hein. Donc, ce qui prouve bien que le niveau moyen a augmenté et que tout le monde a fait un effort vers la qualité. Et ça, c'est à la fois interne, c'est aussi la formation, c'est l'ensemble des process qui sont normés.
Et pour le coup, c'est plutôt rassurant. Pour le consommateur final, c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a une norme de qualité, qu'elle est respectée, qu'il y a de plus en plus de structures.
C'est l'objectif. Et c'est aussi pour ça que je rejoins aussi Charles sur ce point-là. Aujourd'hui, très honnêtement, entreprendre dans ce secteur-là en indépendant, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Ouais, et la difficulté, elle est déjà assez importante comme ça, pour ne pas aller s'en rajouter de supplémentaires.
Oui, je voudrais juste rebondir. Votre question de départ, c'est comment on fait pour choisir son prestataire, finalement. C'est aussi le rôle d'un réseau, c'est d'apprendre aux entrepreneurs, aux patrons d'agence, comment faire leur communication localement, régionalement, et comment le réseau au niveau national communique de façon à ce que les clients aient envie plutôt de se rapprocher de tel ou tel réseau. Il y a aussi c'est aussi un marché concurrentiel sur lequel il faut investir en communication locale, régionale et nationale. Et c'est aussi le rôle d'un réseau que d'accompagner ces chefs d'entreprise pour qu'ils soient connus localement, régionalement ou nationalement.
N'oublions pas qu'on est un jeune secteur professionnel et que notre concurrent numéro un, c'est et ça reste toujours le travail au noir. Hein. Et donc la visibilité que l'on doit donner, le choix qui est fait par un client, il se fait à travers la visibilité et la proximité de l'agence. Après, c'est la relation personnelle qui se crée entre le chef d'entreprise et ses clients.
Alors, vous l'avez compris, ne restez pas tout seul, déjà quand vous êtes porteur de projet, mais une fois que vous aurez créé, tournez-vous vers les fédérations, tournez-vous vers des acteurs qui se sont déjà regroupés, peut-être également vers la franchise, ça aide bien, parce que plus vous serez informé, mieux vous pourrez travailler, et puis en plus, on est plus intelligent à 3 cerveaux ou à 10 cerveaux qu'à un seul cerveau en général. Bon, là, c'est à peu près clair. Troisième chose qu'avait dit le ministre, il a dit, les services à la personne, l'avenir, c'est la technologie. Ça va nous permettre d'enchaîner sur 2030. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Corbin, sur le fait que les services à la personne, vous êtes vous bien placé pour parler de la technologie, c'est vraiment sur ces objets connectés qu'elle va se faire?
Alors, c'est effectivement les technologies, les nouvelles technologies ou les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui n'existaient pas il y a quelques années, vont permettre de développer de nouvelles solutions. Mais je pense que ce qui est important pour l'usager, ça n'est pas la technologie par elle-même, mais le service qui est rendu au travers de la technologie. La technologie n'est qu'un moyen, ça n'est qu'un vecteur, et ça n'est pas le plus important. Ce qu'attend l'utilisateur, c'est le service, la qualité du service qu'on va pouvoir augmenter, qu'on va pouvoir diversifier. C'est aussi un moyen d'innover parce qu'il y a des technologies nouvelles qui vont permettre de rendre des services qu'on n'aurait peut-être même pas imaginés il y a quelques dizaines d'années. Donc la technologie est très importante, mais je ne pense pas que ce soit le cœur de la filière. C'est simplement une des briques.
Vous êtes d'accord avec...
Un exemple, peut-être pour imager, un exemple très concret. Hein. On a 130 agences, on a à peu près 30 000 clients. Ça veut dire qu'on gère, sur 130 agences, l'équivalent de 25 000 paires de clés. Pas mal. Ça veut dire qu'il faut les passer aux employés de maison, il faut qu'elles les oublient pas, il faut pas qu'elles se les fassent piquer. Les clients ont toujours peur que la clé qui était dans le sac de l'employé a été piquée entre midi et deux par quelqu'un qui est rentré chez lui, qui lui a piqué son truc. Là. C'est un enfer, la gestion des clés dans notre métier. Je pense que personne ne me contredira. C'est un exemple très précis. On a introduit, il y a un peu plus de 6 mois, une technologie de serrure connectée. Donc, typiquement, on a fait appel au savoir-faire des nouvelles technologies pour mettre en route des serrures connectées chez nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, on n'a plus besoin de clé pour rentrer chez soi. On peut avoir une clé, mais on peut aussi avoir un bracelet, et ça évite de le perdre pour les enfants. On peut aussi l'avoir sur les clés de la voiture, comme ça on est sûr, quand on arrive avec sa voiture, d'avoir les clés sur la voiture, etc. Un petit badge qu'on met dans sa poche, dans son porte-carte. Mais encore mieux, on peut, comme tout le monde a ça aujourd'hui, avoir sur son téléphone portable un petit digit code qui, quand on arrive près de son appartement ou de sa maison, envoie un signal à la serrure et dit « Tiens, un tel vient d'arriver, est-ce qu'il a droit d'accès ?» Oui. De quelle heure à quelle heure? De 14h à 17h. Très bien, clac, on ouvre, on peut rentrer. Si j'arrive le lundi à 14h, j'ai le droit d'entrer. Si j'arrive le mardi à 14h, j'ai pas le droit d'entrer. Et donc ça, c'est une technologie qu'on a mis en place qui permet de rassurer les clients en disant finalement, je peux de mon bureau décider qui rentre ou qui rentre pas à tout moment, ce qui est important. Je peux de mon bureau savoir qui est rentré et à quel moment. Je peux éventuellement faire pointer la personne qui vient de rentrer pour être sûr que le nombre d'heures qu'elle va effectuer a bien été pris en compte au moment où elle est rentrée dans la maison, etc. Cette technologie, elle est extrêmement simple à mettre en place. Elle se met en place avec, on change juste le canon de la serrure et on met sur le canon de la serrure un moteur qui est relié à une puce RFID, enfin voilà, qui permet de,
qui permet de piloter tout ça. Donc, juste pour vous dire que moi, j'adore la nouvelle techno. Je viens du monde des nouvelles techno, donc j'ai abandonné les techno pour les ressources humaines. Mais je me sers au quotidien de ce que peut apporter la nouvelle technologie, des innovations, pour améliorer le service dans le service à la personne.
En tout cas, tous les deux, vous dites une chose qui est complémentaire, c'est-à-dire que la technologie, c'est bien l'avenir, mais la technologie liée au service et surtout liée à l'humain dans le service.
Oui, alors je partage complètement cet avis. Vous avez donné, monsieur, un exemple d'optimisation du service par la technologie. Je pense que aussi pour les acteurs du service à la personne, ça peut aussi remplir un objectif de différenciation par rapport aux concurrents. Donc on parlait tout à l'heure de comment différencier tel ou tel prestataire. C'est vrai que si j'ai une grand-mère qui est dépendante chez elle et qui a un prestataire qui me permet de recevoir des nouvelles à chaque fois que l'intervenant passe au domicile, ça me rassure davantage qu'un service où j'ai aucune nouvelle. Donc il y a vraiment la différenciation qui est importante. Et enfin, à terme, on pourrait très bien imaginer que la technologie puisse soulager le métier de l'intervenant au domicile pour que cette personne puisse passer plus de temps qualitatif, entre guillemets, avec la personne âgée pour la stimuler cognitivement, pour échanger avec la personne et pas être uniquement dans le soin, dans l'accompagnement, dans le ménage, etc. Et là-dessus, on revient, quand on parle de la technologie, on revient aussi sur la question dont on parlait tout à l'heure de la formation. Parce que y a des acteurs du service à la personne qui ont équipé tous leurs salariés de smartphones pour pouvoir envoyer des informations, optimiser le tout. Mais ça, c'est possible que si les personnels sont formés, encore une fois. Donc c'est un point un petit peu qui revient.
Donc la technologie, encore une fois, oui, mais attention, bonne utilisation, optimisation et surtout optimisation de l'intervenant au domicile de la personne âgée. D'accord avec ça ?
Je suis d'accord. La technologie pour la technologie, c'est comme vouloir inventer un moteur qui aurait pour objectif de faire tourner le moteur. Bon, ça n'a aucun sens. Hein. La technologie, elle est effectivement au service de l'humain. Et au-delà de l'humain, parce que dans l'humain, ça veut tout dire et rien dire, je dirais même des valeurs. Hein. Ce sont des valeurs qui sont mises en œuvre. Voilà. Et ça, c'est un gros avantage de notre métier. Et y a des acteurs nouveaux qui vont permettre de faire cette jonction. Alors, par exemple, le groupe La Poste a pris une participation majoritaire au capital d'accès aux services depuis le début du mois d'octobre. Mais c'est à l'évidence la volonté d'associer des synergies techniques, technologiques et humaines à travers les postiers, à travers le savoir-faire d'accès aux services. Donc un acteur comme ça qui se positionne de cette manière-là sur le secteur des services à la personne, ça dit tout des perspectives d'avenir pour tout le monde.
Eh bien justement, on va rester là-dessus pour conclure. Je vais vous demander à chacun, je vais vous poser une question simple. Est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre dans le service, dans les services à la personne, dans la Silver Eco ? Selon vous, c'est oui, non ?
La réponse est oui. Notre plan de développement prévoit de doubler le nombre d'agences sur la France d'ici 2020. Donc en 3 ans, on cherche 130 nouveaux partenaires avec qui construire de nouvelles agences de services à la personne.
Alors là,
donc la réponse est oui.
Oui, et le message est passé à la recherche de prestataires.
Alors moi, je vais être provocateur, je vais dire non. C'est jamais le bon moment. Je vous parle, moi j'ai créé une entreprise il y a quelques années, et si vous attendez pour entreprendre quelque chose que ce soit le bon moment, vous ne le ferez jamais. Donc si vous avez envie, si vous avez la motivation, si ça vous travaille au corps, ce n'est pas une question de savoir si c'est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment. Juste osez et allez-y.
Moi, j'ai un peu la même réponse. Il n'y a pas de bon et de mauvais moment. Ce qui est important, c'est de se lancer et de se lancer dans une bonne démarche, c'est-à-dire savoir s'entourer, savoir se remettre en question, savoir demander de l'aide et l'avis d'acteurs, travailler avec des fédérations qui sont là pour ça. Donc voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il suffit d'avoir le bon état d'esprit.
Monsieur Bocquart, le mot de la fin.
Oui, incontestablement. Moi, j'ai créé mes structures en 2008 au plein cœur de la crise des subprimes. Et je me souvenais d'une phrase d'Henry Ford, je crois, qui disait « C'est dans les vents contraires qu'on décolle le mieux. Hein. » Bon, et là, en plus, les vents sont porteurs. Chez Accès aux services, par exemple, mais c'est pareil pour le secteur, on est à fin octobre à une progression de plus 34% du chiffre d'affaires depuis l'année dernière. Bon, voilà, ça c'est un chiffre qui devrait encourager les créateurs d'entreprises à prendre une décision positive.
Eh bien, je vous remercie. Je vous laisse applaudir nos 4 intervenants. Merci. De ce matin.